Et c'est l'heure de lire les journaux avec vous, Olivier Bénis, bonjour.
Bonjour.
Vous avez épluché pour nous la presse de ce matin et vous avez d'abord remarqué un large regain d'intérêt pour la situation au Venezuela.
Ce qui est assez normal, hein, puisque c'est demain dimanche que le pays doit élire la nouvelle assemblée constituante, 4 mois après le début d'une vague de manifestations qui ont fait déjà plus de 100 morts. Le Figaro parle d'un pays à l'orée de la guerre civile. Un vote à qui tout double pour Maduro, assure de son côté Libération, qui s'est intéressé notamment aux partisans de l'ancien président Hugo Chavez, qui s'oppose aujourd'hui à son successeur Nicolas Maduro. Libé cite notamment Luisa Ortega Diaz, qu'on ne peut pas vraiment accuser d'anti-chavisme puisqu'elle a elle-même envoyé derrière les barreaux plusieurs ennemis politiques de l'ancien président, et qui considère que la nouvelle constitution est une tentative de détruire l'héritage du président Chavez. D'anciens proches justement de l'ancien président rappellent que la qualité qui l'a toujours distingué, c'était la consultation permanente du peuple, à la différence justement de Maduro. Le Monde raconte de son côté ce que vivent les Vénézuéliens au quotidien, entre pénurie, tentation de rejoindre le voisin colombien et crise sanitaire majeure. Mélina Monferra a enquêté dans différents hôpitaux publics qui font face à une situation catastrophique. Des enfants qui meurent du manque de traitement dans les services de pédiatrie, aux cafards qui grouillent dans les couloirs, en passant par l'obligation pour les patients de tout acheter eux-mêmes ou presque, y compris la gaze, les gants, les seringues. Une situation que le gouvernement de Nicolas Maduro a ignorée pendant des mois, explique Le Monde, allant jusqu'à limoger la ministre de la Santé après un rapport désastreux sur la mortalité infantile et le retour de maladies jusqu'ici disparues. Un médecin s'inquiète même du développement possible de maladies et d'épidémies liées à la malnutrition. Et quand ça arrivera, dit-il, il n'y aura aucun hôpital en état d'y faire face.
En France, la presse fait aussi le bilan d'une folle semaine au Palais Bourbon.
L'expression est de Jonathan Boucher-Petersen dans Libération, convaincu dans son édito que les images des débats de cette semaine qui ont tourné en boucle ne vont pas aider à améliorer la confiance censée être rétablie entre citoyens et représentants. C'est bien simple, selon lui, l'amateurisme de plusieurs vice-présidents et de nombre de députés de la majorité est incontestable. Qui dit renouvellement dit inexpérience, on entend l'argument, précise-t-il, mais on peut se demander pourquoi François de Rugy, Richard Ferrand, Christophe Castaner n'ont pas davantage chaperonné leurs troupes. Justement, Richard Ferrand répond indirectement à la critique dans une interview au Parisien ce matin. Il relativise la cacophonie des derniers jours en accusant non pas les députés inexpérimentés, mais au contraire leurs aînés. Face à notre détermination, dit-il, les vieux briscards de la procédure parlementaire résistent, mais ces politiciens en seront pour leurs frais, nous travaillons quand d'autres s'agitent, lance le président du groupe La République En Marche. Mais sous couvert d'anonymat, plusieurs élus estiment être un peu livrés à eux-mêmes. On nous dit que les textes que nous examinons sont parmi les plus importants de la période qui s'ouvre, mais on ne nous a jamais vraiment expliqué comment nous y prendre, se désole l'un d'eux. Un autre regrette de n'échanger avec sa hiérarchie que sur son smartphone via le réseau Telegram. Mais ce n'est pas toujours très pratique, dit-il, et ça ne vaut pas un bon échange verbal ou une bonne formation.
Un certain amateurisme qui profite forcément à l'opposition.
Oui, pour Jonathan Boucher-Petersen, toujours dans Libé, il profite en tout cas incontestablement aux députés de la France insoumise qui en face donnent l'image d'un PAC diablement efficace entre agitpropre et obstruction pédagogique. Derrière Méluche, explique-t-il, Adrien Quatennens, Alexis Corbière, Daniel Obono ou François Ruffin tirent souvent les débats vers le haut. En revanche, la situation agace profondément à l'Élysée. Le Monde nous raconte une réunion organisée mercredi dernier pendant que toutes les caméras étaient braquées sur la visite de Rihanna. Réunion où Emmanuel Macron aurait sévèrement recadré les cadres de son mouvement, surtout sur la manière de présenter ces mesures. On y apprend notamment que le projet de loi sur le droit à l'erreur a été retoqué par le président lui-même, écrit par des technos sans souffle politique selon lui. Bref, le produit est bon, mais il va falloir retravailler l'emballage.
Le cahier d'été de Libération raconte aujourd'hui un drôle de procès.
Celui de Vladimir Poutine, un procès imaginaire hein, bien sûr, puisque tous les week-ends, Mathieu Lindon s'amuse dans Libé à raconter l'histoire telle qu'elle aurait pu se dérouler. Dans son récit, on découvre un Vladimir Poutine détendu, accusé par une juridiction exclusivement russe, de manquements divers dans l'exercice du pouvoir et qui commence par lancer à la cour « j'avoue tout ». Ah, quand même, se permet de dire le président du tribunal. Mais le président russe continue. J'avoue que j'aime ma patrie et ma démocratie. Qui aime mieux la démocratie que moi? Qui gagne plus d'élections que moi? Même les élections américaines, je les ai gagnées. S'en suivent 3 jours de procès imaginaires et cocasses où les juges disparaissent petit à petit. L'un nommé dans la nuit, chargé du déneigement en Sibérie, où le réchauffement climatique, on n'en a pas encore assez vu la couleur. L'autre impliqué dans un curieux scandale pédophile, ou encore le procureur incapable de prononcer le moindre mot, ne pouvant que rugir à intervalles réguliers bouclier pour se débarrasser du chat qu'il avait dans la gorge. Rassurez-vous, ça reste un procès imaginaire rigolo et qui finit bien. Vladimir Poutine est déclaré innocent avec mention très bien et les félicitations du jury.
On parle football dans l'équipe. Ce soir, deux clubs français vont s'affronter au Maroc.
L'équipe fait sa une sur le premier trophée de la saison, le trophée des champions que vont se disputer ce soir le PSG et l'AS Monaco. Comme on se retrouve, lance le quotidien qui consacre une dizaine de pages au clash. Les deux clubs ne cessent en effet de se croiser depuis un an, mais derrière ce match, il y a aussi une jolie histoire que nous raconte Hugo Delon dans l'équipe, celle de Tanger, ville marocaine passionnée de foot, qui accueille le match de ce soir, qui a vendu des billets à prix cassé pour faire venir le plus de monde possible. Alors oui, un journaliste local le reconnaît. Ce qu'on regarde le plus ici, c'est l'Espagne. Il y a même des gens qui traversent pour aller à Malaga voir des affiches. Mais la France, on aime bien. Et on aimera ça d'autant plus si un certain Neymar rejoint Paris. Moi, je suis supporter du Barça, raconte un père de famille. Mais là, s'il prend ses valises pour le PSG, je viens avec lui. Même si du côté des plus jeunes supporters, on est assez sceptique sur ce transfert. Pour Neymar, 230 €, c'est un peu cher quand même, lance un tout petit qui écarquille les yeux quand on lui précise qu'il ne s'agit pas d'euros, mais de millions d'euros.
Et pour finir, une autre vision de la France vue de l'étranger.
C'est le 5e épisode du feuilleton Vue sur la France dans le monde, qui offre à des correspondants de presse étrangère une tribune pour raconter comment ils voient notre pays. Et celle d'aujourd'hui, écrite par la journaliste franco-libanaise Randa Takieddine, est assez savoureuse. Elle y explique que pour elle, la France est une contradiction vivante, à l'image de ce chauffeur de taxi qui lui lance qu'il en a marre d'Uber et des Arabes, quand un autre l'attend en bas de chez elle pour lui rendre son ordinateur oublié sur la banquette arrière. Les Français sont des râleurs, agressifs et tendus, et des gentils, honnêtes, humains et bienveillants. C'est propre à beaucoup de peuples dans le monde, assure-t-elle, mais la France pousse ce contraste très loin. Pire pour elle, c'est justement le caractère insatisfait et exigeant du Français qui a permis à son pays d'offrir une qualité de vie rarement trouvée ailleurs. Autrement dit, Française, Français, râler, râler, il en restera toujours quelque chose.